Radio Présence, 14h.
Bonjour à tous, l'essentiel de l'actualité, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une proposition de loi socialiste garantissant la présence d'un avocat pour chaque enfant suivi par une mesure d'assistance éducative. Cette mesure concerne environ 380 000 mineurs et vise à assurer un gardien des droits. À chaque enfant, il sera capable de défendre sa parole, veiller au respect de ses droits et intervenir en cas de maltraitance ou de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance. Un avion de tourisme s'est écrasé ce matin près de l'aéroport du Havre peu après son décollage. L'appareil a dévié de sa trajectoire pour une raison encore inconnue. Le pilote se labore est porté disparu. Amnesty International accuse le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens d'avoir commis des crimes contre l'humanité lors de l'attaque du 7 octobre 2023 en Israël. Le rapport publié ce jeudi décrit des massacres de civils ainsi que des actes tels que la détention et maltraitance d'otages. Et puis un mot aux jeux vidéo. Les Game Awards, souvent surnommés les Oscars du jeu vidéo, auront lieu dans la nuit de ce jeudi à vendredi à 1h30 du matin. Cette 11e édition sera diffusée pour la première fois sur Amazon Prime Video, tout en restant accessible gratuitement sur les chaînes officielles YouTube et Twitch. On le rappelle, le jeu français Clair Obscur Expédition 33 est en lice. Voilà pour l'essentiel, bon après-midi à tous.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Nouvelles de l'Église universelle. Anne Dallaire.
Bonjour à tous. Au terme de 4 jours en Turquie, Léon XIV a quitté le pays pour se rendre à Beyrouth, au Liban, deuxième étape de son premier voyage apostolique. Dans son premier discours au Liban, prononcé devant les autorités du pays, le pape Léon XIV les a exhortés à se mettre au service du peuple, alors que le pays du Cèdre est plongé dans la crise et que la défiance vis-à-vis des élites est grande. Il a renvoyé les dirigeants du pays à leurs responsabilités. « Vous êtes investis d'autorité, vous avez des tâches institutionnelles importantes. Je vous encourage à ne jamais vous séparer des gens et à vous mettre au service de votre peuple », a-t-il insisté. Le pape a aussi exhorté les Libanais à emprunter la voie difficile de la réconciliation, plus de 30 ans après la guerre civile libanaise, dont les blessures ne sont pas encore pansées. Si elles ne sont pas soignées, si l'on ne travaille pas, par exemple, à une guérison de la mémoire, à un rapprochement entre ceux qui ont subi des torts et des injustices, il sera difficile d'avancer vers la paix, a-t-il diagnostiqué. Dans son discours, le pape n'est pas entré dans le détail des maux qui frappent le Liban. Il a évoqué les conséquences des répercussions dévastatrices de la radicalisation des identités et des conflits. Il a reconnu que le pessimisme et le sentiment d'impuissance semblent avoir gagné le monde, mais en soulignant la résilience des Libanais et en dressant le portrait des artisans de paix, le pape a surtout voulu encourager ce peuple. Alors que la jeunesse libanaise émigre massivement pour échapper à la crise, le pape lui a lancé un appel à rester. Les artisans de paix osent rester, même lorsque cela implique des sacrifices, a-t-il expliqué. Il a évoqué l'hémorragie de jeunes et de familles provoquée par l'incertitude, la violence, la pauvreté et bien d'autres menaces. Il a concédé qu'il fallait vraiment du courage et de la clairvoyance pour rester ou revenir dans ce pays. Cependant, a-t-il ajouté, il ne faut pas oublier que rester dans son pays et collaborer jour après jour au développement de la civilisation, de l'amour et de la paix reste une chose très appréciable. Élargissant son raisonnement à l'ensemble du Moyen-Orient, le pape a posé la question de savoir que faire pour que les jeunes, en particulier, ne se sentent pas obligés de quitter leur terre et d'émigrer. Comment les motiver à ne pas chercher la paix ailleurs ? Mais à en trouver les garanties et en devenir les protagonistes dans leur propre pays natal. Il a alors invité chrétiens et musulmans, les composantes religieuses et civiles de la société libanaise, à sensibiliser la communauté internationale à cette question. Il a exhorté à emprunter la voie difficile de la réconciliation, plus de 30 ans après la guerre civile libanaise, dont les blessures ne sont pas encore pansées. En énumérant les facteurs de renouveau pour le pays, le pape enfin souligné le rôle indispensable des femmes dans l'effort laborieux et patient pour préserver et construire la paix. Les femmes savent particulièrement préserver et développer des liens profonds avec la vie, les personnes et les lieux, a-t-il déclaré, en appuyant leur participation à la vie sociale et politique, ainsi qu'à celle de leur propre communauté religieuse. Avant la prise de parole de Léon XIV, le président Joseph Aoun avait remercié le Saint-Siège pour sa défense de l'unité du Liban et de sa souveraineté. Pour le chef d'État, élu en janvier dernier, la sauvegarde du Liban, modèle unique de coexistence, est un devoir pour l'humanité. Le seul président chrétien du Moyen-Orient a prévenu « Si le chrétien disparaît du Liban, c'est l'équation même qui s'effondre, ainsi que sa justice qui disparaît. Si le musulman tombe, c'est l'équilibre qui se briserait, ainsi que sa modération. » D'autres infos demain, à bientôt.
Présence.
Bonjour, c'est Nathalie Cardon. Ouvrez la porte vers une vie plus épanouissante et spirituellement enrichissante avec l'émission Des clés pour vivre. Je vous invite à un voyage inspirant au travers des expériences de témoins exceptionnels. Explorez des récits de transformation personnelle et de découvertes spirituelles qui résonnent avec notre vie quotidienne.
Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon du lundi au vendredi à 11h45, 13h45 et 20h. Intégrale le dimanche à 23h.
Écoutez Présence, c'est votre radio. Soutenez Radio Présence, qu'elle devienne aussi la radio de beaucoup d'autres.
Art Thérapie avec Marine de Charin.
Bonjour chacune et chacun. Assise côté fenêtre dans un train l'autre jour, j'observais le paysage littéralement avalé par la vitesse du TGV. Je le trouvais tristounet ce paysage. Des façades d'immeubles gris rasant les voies, à peine protégées par une toute petite haie, toute mince. Des belles maisons probablement plantées à l'origine dans un décor champêtre et puis gâchées par la construction d'une nouvelle ligne ferrée. Je pensais aux habitants de ces lieux, soumis, yeux et oreilles depuis leurs chambres, leurs salons et leurs balcons, aux incessants passages de trains. Leurs rêves, s'ils ont le temps d'en faire, doivent être peuplés de sifflements, peut-être même de tremblements. Et même si j'aime le train, et qu'il peut être pour certains un vrai sujet de passion, je ne serais pas personnellement fanade de l'avoir sous le pif tous les jours. Je me disais que nous étions bien désinvoltes, nous tous voyageurs d'un moment, à plonger ainsi nos regards dans la vie des gens quelques fractions de secondes, dans un passage éclair à leur couper le souffle, et puis à disparaître aussitôt sans crier gare. Nous, voyageurs, assis confortablement dans nos rames, nous avançons, mais eux qui résident le long des voies sont soumis passivement à ces passages. Nous, nous avons du recul, en un instant la rencontre entre dans le passé. Tandis qu'eux sont soufflés par le train dans toute sa longueur, l'événement dure et se répète à fréquence régulière. Et je me projetais dans leur situation, me sentant envahie, presque agressée, quand subitement le paysage à la fenêtre a changé radicalement d'aspect. Après les séries d'immeubles et de maisons à ras des voies, des champs à perte de vue, un horizon ouvert, large, lumineux, le ciel coloré, des nuages aux formes féeriques, et l'enfant du siège de devant qui crie sans contenir son éblouissement « Oh, mais que c'est beau !» Son cœur et le mien avec avaient fait un bond. Ça s'entendait clairement dans le timbre de sa voix. Mais oui, tout à coup, on était éblouis, nourris, apaisés, même rassurés. On retrouvait de l'espoir pour nos congénères des immeubles gris. Ils pouvaient au moins sortir en balade dans des beaux espaces verdoyants à la sortie de leur quartier pour respirer un minimum. C'est ce qui se passe en chant et danse thérapie, ce phénomène de recul qu'apporte la beauté de la nature, qui ouvre l'horizon, qui apaise les émotions. Eh bien, c'est l'analogue de l'effet qu'apporte la création. Les patients arrivent, tendus, gris, fatigués, parfois écrasés par des émotions négatives, et grâce au chant, grâce aux émissions sonores en tout genre, grâce à la danse, aux mouvements rythmés, ondulés, l'horizon s'ouvre. Il retrouve souffle et confiance, le corps se détend, le cœur se dilate, les émotions lourdes s'apaisent. Et comme l'enfant du train, il crie régulièrement « Oh, mais qu'est-ce que ça fait du bien !» Ah les amis, on aime peut-être depuis l'enfance voir passer des trains du haut d'un pont ou bien derrière une barrière bucolique, mais on n'est pas fait pour y rester toujours. Pour notre santé corporelle et psychique, les changements réguliers de paysage s'imposent. On a besoin de silence, d'horizon, d'air. et sans avoir à partir, chanter, danser, apporte cet horizon, ce recul bienfaisant. Quand nous nous sentons envahis par le bruit, la vitesse ou la répétition des jours, ouvrons nos cordes, bougeons nos corps, en son, en rythme, sans prétention. Que votre semaine soit belle, toute nourrie de voyages poétiques.
Oh, now that you're gone, now that you're gone, I feel so unsure. As I take your hand and lead you to the dance floor, as the music dies, something in your eyes calls to mind the silver screen and all it's said goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm, though it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should've known better than a cheater friend and waste the chance that I've been given. No, I'm never gonna dance again the way I dance with you. Oh, no, I'm never gonna dance again the way I dance with you. Time can never mend the care. The heart and mind, ignorance is kind. There's no comfort in the truth. Pain is all you find. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Should've known better than to cheat a friend and waste the chance that I've been given. No, I'm never gonna dance again. Dance with you.
Les chemins de traverse avec Pascal Laurière, une émission Maurice Clément Fèvre. Les chemins de traverse, votre rendez-vous avec notre pays, son histoire, ses chemins, ses sites, ses légendes, ses traditions, son patrimoine et ses hommes. Dans cette série des chemins de traverse, je vous propose au cours de diverses rencontres de découvrir à la fois une plante et une épice. La plante, Crocus sativus. L'épice, les stigmates de la fleur du crocus. La plante en automne embellit par ses fleurs certains coins de France, tandis qu'en cuisine, ses stigmates, comme par magie, colorent et parfument de nombreux plats. Au fil des saisons et des rencontres, nous allons suivre le cycle de Crocus sativus jusqu'à l'obtention, puis l'utilisation de l'or rouge, le safran. Bonjour et bienvenue dans ce chemin de traverse, le safran de la safranière à votre assiette. Dans ce nouveau rendez-vous avec le safran, avant d'aller faire un tour dans la safranière au mois d'avril, je vous propose de reparler de l'histoire du safran avec Odette Angers, Christian Agrèche et Didier Bure.
Ah, donc là, vous avez tous les écrits de... Enfin, vous avez pu récupérer les photocopies 1800, de 1800, oui, 1400
oui,
et quelques.
Oui, je cherche celui de 1460.
Là, vous en avez un de 1454,
ah, ben voilà, 1454, oui, c'est ça.
Qu'est-ce qu'ils racontent, tous ces écrits, là?
Eh bien, tous ces écrits, ils disent... Vous voyez, le safran est une plante à rhizome parente de l'iris.
Odette Angers, écrit historique.
On utilisait le pisil de ces fleurs non seulement dans la cuisine et la pharmacie, mais aussi en teinturerie pour obtenir une couleur jaune. Trois pays en exportaient, l'Italie, la France méridionale et l'Espagne du Nord-Ouest, Aragon et Catalogne. Alors là, c'est dans le commerce de l'épicerie à Toulouse, et qui date de 1454.
Vous voulez le nous lire, date de 1454.
Oui.
Est-ce qu'il y avait des foires vraiment spécifiques à l'époque au safran?
Christian Agrèche, président du conservatoire botanique du safran de souche Quercy.
Oui, à l'identique, on connaît aujourd'hui le marché aux truffes de l'Albenque, qui est un marché monoproduit. En fait, il y a peu de marchés monoproduits, sauf pour la viande et quelques produits vraiment rares. Mais pour le safran, il y avait des marchés monoproduits, il y avait des grandes foires annuelles et des marchés aussi, je dirais, réguliers au cours de l'année. Et ces marchés se trouvaient positionnés de telle sorte qu'on puisse exporter le safran, surtout par la navigation du Lot, quoi, hein. Ça partait jusqu'à Bordeaux, vers La Rochelle, pour être embarqué sur des bateaux, et ça partait par le Lot. Donc on avait, tout au long de la rivière Lot, des marchés, notamment à Albas.
En 1559, il y a une foire à Albas tous les mois pour vendre le safran.
Du côté de Cahors aussi, on en avait aussi du côté de l'Aveyron, vers Caussade, qui repartait aussi comme ça. Et on avait énormément de marchés, notamment à Saint-Antonin, dans la région de Caussade, où venaient des marchands allemands. Les Allemands étaient très friands du safran de notre région, qui passait pour un des meilleurs d'Europe. Et ils venaient souvent faire des achats. Et on les accusait d'apporter des idées nouvelles et surtout d'apporter le protestantisme dans la région tout en venant acheter du safran. C'est une raison de la propagande du protestantisme à Saint-Antonin et bon, ça posait problème d'ailleurs. Ça, c'était en 1534.
Et à cette époque-ci d'ailleurs, on en produisait combien en France?
Difficile à dire.
Enfin, à peu près pour.
Mais on peut dire que dans le sud de la France, étant donné que c'était un produit qui était très important pour l'exportation et une richesse du pays, on peut se dire qu'on produisait entre 15 et 20 tonnes en France au minimum.
Et maintenant, de nos jours?
Et maintenant, de nos jours, on tourne autour de, je dirais, au maximum, allez, 30-40 kilos, maximum. Alors qu'on consomme en bon safran, la potentialité est de, je dirais, 10 tonnes.
N'importe toute la consommation.
Safran, voilà, ouais.
La culture du safran aurait atteint la France vers le Xe siècle et se serait développée à la suite des croisades dans plusieurs régions. Il était utilisé pour donner une teinture d'un jaune orangé particulier. Au Moyen-Âge, c'était aussi un condiment très recherché et un remède contre de nombreux maux. D'ailleurs, il est toujours cordial, pectoral, somnifère, hystérique et apéritif.
Le côté médicinal du safran, nous y reviendrons. Après Christian Agrèche et Odette Angers, au tour de Didier Bure de nous parler des temps anciens. Puis nous essaierons d'expliquer la disparition du safran dans nos régions.
Au niveau français, c'est rentré dans les terres, vraiment. Et c'est monté jusque dans notre zone, c'est même monté plus haut parce que la route du safran passe de part et d'autre de la France et on s'aperçoit qu'après ça remonte en Angleterre aussi. Mais là, si vous voulez...
Didier Bure, président de l'association Les Safraniers du Quercy.
Quand on parle safran au niveau du Quercy, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de safran puisque dans les recherches historiques que l'on a fait, il y avait des courtiers marseillais qui étaient venus, puisqu'il y avait une plateforme commerciale sur Caussade. Parce que quand on dit le Quercy, une partie du Tarn-et-Garonne en fait partie du Quercy. Donc une plateforme commerciale sur Caussade, et ces bandes de courtiers marseillais stipulaient des quantités de 100, 200, 300 kilos de safran. Donc, quand on sait un peu ce que pèse le safran, bon, ça fait du safran, je pense. Ça fait des bulbes et des fleurs à ramasser. Par contre, après, par le biais, au XVIIe siècle, par le biais d'abord du poivre, qui est venu détrôner au niveau cuisine le safran, par le biais aussi, ben, ça a été un groupement de choses qui ont fait que ben, le safran a dépéri, parce qu'après, au niveau température, au niveau maladie, au niveau, il y a eu plein de choses qui se sont faites en même temps, et il y a eu beaucoup de safran qui ont péri. Mais malgré tout, ben le safran est resté quand même dans le Quercy, puisque dans chaque exploitation, il y avait, au début du siècle encore, le mètre carré familial qu'on appelle. Tout le monde avait un mètre carré ou deux mètres carrés pour la cuisine personnelle, c'est tout.
Bon, alors pourquoi est-ce qu'on a perdu le safran ?
Voilà, oui, pourquoi on a perdu le safran ?
Je vais vous le dire.
Au Datanger.
Eh bien, on a eu des hivers très froids. En Quercy et ailleurs. Donc, il a peut-être été abîmé aussi, ça c'est possible. Parce que si on ne l'enterre pas suffisamment profond, il risque de geler.
De geler, oui.
Bon, et les gens ont eu des disettes. Or, sur les safranières, on a semé du blé. Chose qu'on faisait déjà pour la biculture, quoi. Mmh. Déjà, on le faisait un peu, ça. Et puis l'avènement de la pomme de terre. Alors les gens ont planté plutôt des pommes de terre que du safran qui était, on le vend pas, on en a, on n'en a pas.
Oui, c'était vraiment un aliment, la pomme de terre.
Voilà. Et puis la révolution est arrivée et je vois mal les marchands allemands venir dans un pays où on se cassait la figure pour acheter du safran. Hein, des choses comme ça. Mmh.
Donc c'est au 18e que ça aurait disparu.
Voilà. C'est le 18e qui est...
Oui, oui. Les conflits sociaux, la révolution.
Voilà. Oui. Ça, c'est vraiment là, ouais. À ce moment-là. Alors par contre...
Oui, tout ce qui est la chimie, qui a détrôné le safran en tant que colorant.
Au point de vue tinctorial, oui. Ouais. Mais au point de vue épice, ça valait plus le coup de le faire. Mm-hmm. Par contre, j'ai un écrit, j'avais trouvé, alors ça, avant même qu'on vienne en retraite, là, le docteur Boutari de Douel, qui avait trouvé encore du safran chez Rigal en 1925. Vous voyez, ça n'était pas perdu. Mm-hmm. En 1925,
Rigal, c'était...
Rigal, c'était le nommé Rigal à Douel qui avait...
Ah d'accord, une personne
safran.
Qui voulait du safran,
oui,
comme ça. D'accord.
Par contre, le préfet Delpont, fin du 19e, avait fait le relevé, avait demandé aux gens de faire les relevés des cultures, tout ça, et on trouve quelques endroits où il y a du safran.
D'accord.
Voilà.
Oui, mais de toute façon, c'était toujours un peu cultivé, puisque vous disiez
tout à
l'heure que chaque famille avait son petit carré, donc bon, sauf que c'était plus à la grande échelle.
Et le fameux carré, Rigal, à Douel, avait encore son carré de safran en 1925. Ah
ouais. Et donc, c'est vous qui avez relancé le safran ?
Enfin, si on veut, oui, si on veut. On se l'est relancé pour nous.
Oui, mais enfin, ça...
Oui, ça leur a donné, oui, ça leur a donné. Oui.
Allez, on va voir la safranière. Il pleut ? Aïe. Ah, mais s'il pleut, alors.
Ce ne sont pas quelques gouttes d'eau qui vont nous empêcher de sortir, d'autant plus qu'en ce mois d'avril 2010, nous attendions l'eau depuis plusieurs jours. Si Odette Angers m'a parlé du côté historique, légendaire, et de sa rencontre avec le safran, sa fille Claudine m'a fait découvrir le safran concrètement en m'amenant à la safranière. Claudine, plus timide et réservée que sa maman Odette, prend vraiment plaisir à faire visiter sa safranière. Et là, elle devient intarissable. Le safran l'habite, elle vit le safran. Première rencontre avec la plante.
Ah oui, donc là, c'est encore complètement envahi par les herbes.
Tout à fait. Alors, il n'est pas tout à fait jaune.
Hein. Et on le voit, le safran ? Parce que moi, là, je vois, à part des... Je vous cache pas qu'à part des mauvaises herbes, je vois pas grand chose.
Regardez, c'est comme des cheveux.
Ah d'accord, c'est ce qui fait ces comme ces cheveux, comme vous dites là.
On peut le coiffer. Si j'avais des herbes, je le coifferais comme ça. Et puis là, je passerais la petite.
D'accord, donc c'est ça alors.
Oui, voilà.
Alors, donc là, il est encore vert.
Il est vert, donc je le laisse comme ça.
J'ai désherbé, j'ai enlevé les mauvaises herbes, les plus grosses. Hein.
D'accord. Et là, la prochaine étape, alors ?
Alors, la prochaine étape, c'est qu'il va être complètement jaune et on pourra tirer. Et à ce moment-là, je désherbe à la binette. Tout l'été, je désherbe. Il faut qu'en septembre, la terre, elle soit nue comme... comme là-bas.
Il faut qu'il n'y ait plus rien.
Quoi, ouais, plus rien. Et même au mois de juillet et d'août, pour qu'il accueille bien la pluie d'orage, je passe une petite motobineuse par-dessus. Hein, étant donné que je plante à 20 cm. Alors ça, c'est du safran que j'avais oublié là-bas, sur la parcelle. Et j'ai essayé le mois dernier de le déplanter, le replanter. Je vais voir ce que ça a donné.
Ça envoie les...
Oui, oui, oui.
Donc ça, une fois que c'est sec, ça...
Voilà, quand c'est sec...
On peut l'arracher, ça vient tout seul.
Oui, ça vient tout seul. Vous voyez.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Mais là, il est encore vivant, donc par photosynthèse, il se... Mais vous allez voir, je vais déplanter et vous allez voir sans doute les bulbes encore collés, c'est-à-dire que le bulbe mère n'est pas mort encore.
Avril 2010... Alors que la plante est encore en feuilles, première approche avec la safranière et découverte de la plante magique, comme nous le dit Odette.
C'est une plante magique.
Tant qu'il n'est pas complètement jaune, le bulbe est encore vivant.
Les trois bulbes se forment, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut les planter chez une Ashley là-bas.
C'est sec, hein ?
C'est sec. Alors je pense que c'est assez profond. Alors...
Oula, il y a du monde, là.
Il y a du monde, oui. Bon. Alors, voyez, il y a un petit bulbe, là.
Donc, le gros, c'est le bulbe mère ?
Oui. Alors là, je ne sais pas trop, parce que ce sont des... C'est pas une plantation, c'est des oubliés, j'appelle ça des oubliés. Alors, voilà le bulbe mère. Voyez ?
Ah, d'accord, là, il est complètement séché.
Et il est sec, et il va... Il va devenir comme de la poussière grise, hein, il se désagrège.
D'accord. Donc ça, c'est un petit bulbe fille. Alors.
Voilà, ça, c'est une fille. Il en a donné qu'un. Il en a donné qu'un parce qu'il était petit. C'est-à-dire qu'un petit bulbe, il va donner un bulbe un peu plus gros. Et comme ça arrive à 7 cm, c'est là où le bulbe qui a 7 cm de circonférence va donner 7 à 8, va donner 3 bulbes. Alors, on va voir, si vous voulez, on va déplanter. Là, c'était des petits bulbis, vous voyez, oubliés. Et...
Oui, voyez, donc ils reprennent malgré
aussi,
tout. Quoi.
C'est le petit bulbe qui a donné ce bulbe plus grand.
D'accord.
Et celui-là va peut-être en donner 3. Là, c'est pas caractéristique d'une plantation. Hein.
Lors de notre prochain rendez-vous, nous serons à nouveau dans la safranière à la découverte de cette plante et de son cycle de vie. Au fil des émissions et des rencontres, nous allons passer de la plante en feuilles à la plante en fleurs. C'était Les Chemins de Traverse avec Pascal Laurière, une émission Maurice Clément Fèvre.
Marche vers dimanche.
Bonjour, c'est Marie-Noëlle Tabu. Je vous propose de lire ensemble chaque semaine les textes de la liturgie du dimanche. Plus je les lis, plus je suis émerveillée par cette parole de Dieu. Vous connaissez la phrase de La Fontaine ? Labourez, prenez de la peine, un trésor est caché dedans.
En marche vers dimanche, du mardi au vendredi, à 6h05, 11h40 et 20h30.
Musique traditionnelle et création du Quercy, c'est l'émission des ondes de Radio Présence qui ravive la tradition musicale de nos contrées dans les travaux, les fêtes et les veillées et qui porte aussi le vent de la création contemporaine sur le souffle de cette ambiance festive et passionnée.
Chers auditeurs de Radio Présence Figeac et Occitanie, aujourd'hui, Marie-Odile Lacaze me laisse le micro pour inviter à nouveau Tiennet Simonin, à continuer à parler du musette, de l'histoire du musette, avec Armand à la technique. Bonjour Armand.
Bonjour Mathilde, bonjour Tiennet.
Et moi-même, Mathilde Lacaze, qui vais conduire cette émission avec Tiennet Simonin. Bonjour Tiennet.
Bonjour Mathilde, bonjour tout le monde.
Alors Tiennet, vous êtes en Bretagne en ce moment, mais grâce à la technique fantastique d'Armand, nous avons la possibilité de vous joindre en Bretagne pour que vous continuiez à nous parler de l'histoire du musette. Donc nous avons déjà vu les origines du musette dans une première émission, l'entre-deux-guerres dans une deuxième émission, et aujourd'hui Tiennet, de quoi va-t-on parler ?
Alors aujourd'hui on va partir des années 1940 et puis on va aller jusqu'aux années 1980 grosso modo. On va voir qu'il y a pas mal d'évolutions dans ces décennies-là. Donc la dernière fois on était resté à 1940 qui marque une nouvelle fermeture des bals comme en 1914. Fermeture des bals en France, néanmoins on a toujours du musette et de l'accordéon au moins à travers les enregistrements. Et comme j'avais dit, à la fin des années 1930, on a l'émergence du swing musette, qui est un métissage entre le musette, la musique manouche et le swing américain. Et en fait, c'est l'accordéoniste Gus Wieser qui va donner ses lettres de noblesse à ce style, avec Tony Murena également. Et on va écouter une valse. Gus Wieser a composé beaucoup, beaucoup de valses swing. Celle qu'on va écouter donc s'appelle Flambée Montalbanaise.
Superbe valse que cette flambée montalbanaise de Gus Wieser. Tiennet, je vous laisse le micro pour la suite.
Oui, on entend bien avec cette valse ce fameux swing qui est propre donc à la valse swing, au swing manouche. En quelques mots, avant Gus Wieser, on jouait plutôt les valses quand il y avait des croches, c'était assez carré en fait, et toutes les notes avaient à peu près la même durée. Ta 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 ta. Et avec l'arrivée du swing, on va plutôt jouer ta-ta-da-ta-da-ta-da. Ça, on l'entend bien dans cette valse-là, mais dans l'ensemble des valses swing du répertoire de Gus Wieser. Voilà, là on est en 1940, on va avancer de quelques années et arriver en 1945, donc juste à la sortie de la guerre, et on va écouter Joe Privat. Alors Joe Privat, c'est un autre grand représentant du swing music. Il se fait déjà un petit peu connaître à la fin des années 30, mais dans un répertoire standard assez classique, un son musette assez classique également. Mais il va vraiment, j'allais dire, basculer dans le swing musette, donc à partir de 45, et il se fait connaître avec ses premières compositions, qui sont vraiment de très belles factures. On va écouter donc l'une de ses premières valses swing, qui s'appelle « Sa préférée ».
À Figeac, 97.7.
Ah, moi j'aime ces types de valses musettes, j'aime beaucoup écouter ça. Ça me rappelle les balles, ça me rappelle tout le swing manouche que j'aime beaucoup écouter aussi. Est-ce que vous jouez ce type de musique, Tiennet?
Non, le musette que je joue à l'accordéon, c'est plutôt le musette des années 20, années 20-30. Mais non, après le swing musette, c'est vraiment très virtuose et c'est assez difficile finalement. Mais
dans le phrasé,
beaucoup écouté. Oui, le phrasé est différent. Il y a une technicité plus importante à mon avis. Hein, mais voilà, plus de virtuosité, plus de dextérité également.
D'accord. Donc après le swing manouche, qu'est-ce qui suit dans l'histoire du musette dans cette période-là?
Alors. Là, on est donc dans les années 40. Il y a, à la sortie de la guerre, il y a une évolution du répertoire qui va se faire un petit peu comme celle qui avait eu lieu après la Grande Guerre en 1919. va y avoir voilà, des changements dans le répertoire dansé. Alors fin années 40, on va voir apparaître, enfin se populariser plutôt, parce que ça apparaît un peu avant, la rumba, le cha-cha-cha, le boléro. Puis un petit peu plus tard, plutôt dans les années 60, là on va avoir dans le bal musette, hein, l'arrivée du rock, du twist un petit peu après, et puis le Madison. On a une disparition progressive du foxtrot. Voilà, on en a de moins en moins. Donc renouvellement des danses. Et puis parallèlement, on a une scission assez claire dans les années 50 entre d'une part un musette qui va être fidèle au registre trois voix musette dont j'avais parlé à la dernière émission. Musette qui se veut moderne en fait et qui va intégrer tout ce qui est à la mode au niveau des instruments. Donc on va avoir l'apparition de la guitare électrique par exemple, et puis plus tard les synthétiseurs, et puis encore plus tard ce qui est boîte à rythme, MAO, musique assistée par ordinateur. Voilà, donc un musette qui va être associé vraiment au bal populaire. Et puis d'autre part, un musette peut-être un peu plus à écouter, j'allais dire plus acoustique en tout cas, avec moins d'instruments électrifiés, plus mélancolique aussi, plus fidèle au son musette, mais lui pour le coup qui va être complètement boudé par les médias. Les médias vont vraiment mettre un coup de projecteur sur le premier type de musette dont on a parlé. Alors, pour illustrer un petit peu cette évolution du musette, alors on aurait pu écouter Yvette Horner, on aurait pu écouter André Verschuren, Aimable, voilà, qui sont vraiment des représentants très célèbres de ce genre de musette. Moi, je vous propose d'écouter un accordoniste qu'on connaît peut-être un petit peu moins, qui s'appelle Édouard Duleux, voilà, dans une valse de 69 qui s'appelle L'accordéon des amoureux. Alors, l'accordéon des amoureux, c'est vraiment le musette typique des années 60-70, avec batterie, guitare électrique qu'on emprunte au rock, avec des thématiques aussi beaucoup plus restreintes dans les paroles des chansons par rapport au café-concert, au music-hall. C'est voilà, l'amour qui dure toujours, la fête, la joie. Et c'est vraiment un musette qui reste associé, vous savez, à l'image de l'accordéoniste très souriant, qui joue debout.
Avec des paillettes.
Avec des paillettes, oui. Etc.
La boule à facettes.
Voilà, cette image-là de l'accordéoniste avec le sourire figé, ça date des années 50. C'est associé au début de la télévision, en fait. C'est l'ORTF. Et puis, il y a le Tour de France aussi. Voilà, l'accordéon était très, très associé au Tour de France. Et puis, il y a le développement des galas aussi, en parallèle dans ces années-là. Voilà, bref, on va écouter donc l'accordéon des amoureux par Édouard Duleux.
On voudrait toujours entendre un chant d'amour qui dans un frisson semble bercer fils et garçons, accordéon.
Mais ça me fait penser au bal de village auquel j'ai été petite. Et puis, je revois très bien mon grand-père se préparer pour aller au bal musette le dimanche après-midi. C'est tout à fait ce style de musique-là, n'est-ce pas ?
Musette très populaire dans les années 60, 70, années 80 encore. Voilà, même encore dans les années 90. C'est toujours pas fini, en fait. On a toujours dans l'été dansant actuellement, souvent c'est les dimanches après-midi, on a ce genre de musette. Alors il n'y a plus forcément un orchestre maintenant qui accompagne l'accordéoniste, souvent c'est plutôt des boîtes à rythme ou des gens qui font du synthé, mais voilà, on a c'est pas terminé quoi, ce musette-là continue à
confirme, à
travers les balles, et c'est vrai que c'est surtout surtout dans les campagnes, c'est vrai que ça reste surtout attaché à la ruralité.
Dans le Lot, moi je vois encore des balles de la poule farcie, des balles du dimanche après-midi avec ce style de musette, et les accordéonistes sont jeunes d'ailleurs.
Oui, c'est toujours très populaire, absolument. Alors, parallèlement à ce musette dont on vient de parler, il y a un phénomène né dans les années 1930, mais qui explose vraiment dans les années 50-60, c'est le néo-folklore auvergnat, avec des accordéonistes comme Jean Ségurel, comme André Tivet, Tonin Troupel, etc. À mon avis, le meilleur représentant de ce genre-là, ça reste Jean Vessade. Alors Jean Vessade, c'est vraiment une vedette du musette parisien dans les années 20-30. D'ailleurs, il est le premier à enregistrer avec Django Reinhardt, qui à l'époque était au banjo.
Ah, Django Reinhardt, justement, je demandais où est-ce qu'il était là-dedans.
Et ben voilà, Django Reinhardt, en fait, donc il s'est fait connaître, bien sûr, avec tout son travail autour du swing manouche, mais avant ça, il accompagnait les accordéonistes dans les bals musettes, plutôt avec le banjo, hein, avec la guitare un peu aussi, mais au début, c'était le banjo six cordes, voilà.
Alors un petit mot sur Django Reinhardt, hein, qui vient donc des Gitans. Hein. Django Reinhardt jouait avec trois doigts à la main gauche, puisqu'il avait eu sa main brûlée dans un accident. Et ça reste un virtuose de la guitare et du banjo manouche, n'est-ce pas ?
Oui, complètement. Mais quand on l'entend au banjo, en fait, il a encore tous ses doigts, entre guillemets. C'était avant l'accident.
Ah d'accord, ok. Ouais,
c'est intéressant d'ailleurs de voir dextérité il arrivait à avoir avec tous ses doigts, alors qu'il avait seulement 13 ans, hein, je crois, l'enregistrement de Jean Vessade, le premier avec Django Reinhardt, ça c'est 1928, mais je crois que c'est 1915, si ma mémoire est bonne. Donc il devait avoir 13 ans, vraiment très très jeune, il a commencé à accompagner et à enregistrer du musette. Donc pour en revenir à Jean Vessade, c'est le compositeur d'un très grand passodoble très connu, Sombreros et Mantilles. Voilà, enfin bref, il a eu donc cette carrière dans le musette parisien dans les années 20-30. Et puis, dans les années 50, il revient avec pas mal de compositions à lui autour de l'Auvergne, avec toujours un petit peu les mêmes thèmes, les bergers, les pastourelles, les pastoureaux, les paysages de l'Auvergne, la nostalgie du pays qui est loin. On retrouve toujours un petit peu ces mêmes thématiques dans les paroles de chansons. Et puis, c'est finalement un métissage entre le folklore auvergnat et le musette. Voilà, souvent, il y a un petit peu de cabrette, un petit passage de cabrette pour rappeler les origines auvergnates, etc. Et je vous propose d'écouter une valse donc de Jean Vessade, par Jean Vessade lui-même, qui s'appelle « Ma pastourelle ».
Thank you. que c'est la plus belle des filles de chez nous. Sa taille fine, sa belle mine et son regard si doux. Ronde jalouse, les pleurs même, je vous le dis sans détour. C'est pour cela que mon cœur l'aime, il l'aimera toujours. Chante, chante ma bielle, ton refrain le plus joli. Chante, chante pour elle, un air de mon pays.
Ça me rappelle une soirée que j'avais faite, enfin à laquelle j'avais participé, je crois que c'était en 2004 à Saint-Chély-d'Apcher, en Aubrac, et c'était une soirée Jean Veissade, et ils avaient passé, enfin ils avaient joué